bonjour Dominique de Louhans, en Saône-et-Loire. Voilà, moi je vous appelle parce que je suis scandalisé d'avoir entendu Bruno Le Maire féliciter les Français d'avoir consommé afin de pouvoir faire marcher nos industries en ces temps de COP26. C'est scandaleux.
Oui, bonjour Annie, d'un village du Gers. Là, je voulais faire référence à un article du Canard Enchaîné de cette semaine sur les poulets confinés et justement où la responsable de la Confédération paysanne du Gers alerte sur les nouvelles directives du ministère de l'Agriculture au sujet des élevages de plein air. C'est assez surprenant que le ministère de l'Agriculture, on va dire, se couche devant les lobbies industriels. Peut-être qu'un jour, comme pour Total maintenant, on pourra mettre en cause les personnes concernées qui ont donné les autorisations, qui sont en train tout de même d'abîmer, détruire notre vie, notre culture et surtout notre alimentation. Voilà, merci, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Pascal à Loquérec, c'est dans Finistère. Vous demandiez à vos invités combien on avait de temps pour réagir et éviter les plus de degrés au niveau planétaire. Et en fait, ils sont restés un petit peu évasifs et je pense qu'effectivement, c'était difficile pour eux de dire que c'était trop tard. Parce que avant, quand on posait cette question aux spécialistes, ils disaient on avait 10 ans. Mais en fait, ça fait des années qu'on dit ça et donc je pense qu'on est déjà vraiment au panneau trop tard. Et donc, la responsabilité est peut-être aux climato-sceptiques, là, d'il y a quelques temps, qui nous ont fait perdre au moins une ou deux décennies avant de prendre conscience qu'on était rentré dans l'anthropocène. Et c'est assez atterrant. Voilà, ben écoutez, merci pour ce petit exutoire et puis bonne émission. Au revoir.
Alain, habitant Sautron, en Loire-Atlantique. On écoute à votre émission du mardi 26 octobre sur la restauration de la nature. Après avoir abattu 8 magnifiques chênes de 40 ans en 2019, et cela malgré un mouvement d'opposition citoyenne réclamant une consultation démocratique, les élus de la majorité veulent maintenant achever leur projet en abattant les chênes rouges rescapés. Mais projet de quoi au fait? Eh bien d'aménagement du cimetière actuel en cimetière paysager voyant. Pour que notre société attache plus d'importance aux morts qu'aux vivants et aux générations futures, c'est qu'elle doit être bien malade. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le projet, vous pouvez appeler le secrétariat des services techniques de la mairie. C'est ce qui est écrit sur la seule et unique pancarte parlant de ce projet. À bientôt.
Bonjour, Anna des Yvelines. Donc, je vous appelle parce que j'entends parler de neutralité carbone de la Chine en 2060. Mais il faudrait peut-être s'interroger parce que comme nous faisons construire, préparer tout un tas de choses en Chine pour l'Europe, cette neutralité carbone, c'est aussi la nôtre parce que si on fait fabriquer chez nous, eux, ils auront forcément moins de problèmes et ils pourront être en neutralité carbone peut-être avant 2060. C'est une petite réflexion. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
L'histoire que nous allons vous raconter cet après-midi va nous faire remonter, vous allez le voir, aux origines du plaisir. Lorsqu'ont eu lieu les premières amours entre les deux sexes, tout s'est passé dans l'eau de mer primitive. Une histoire qui nous montre que oui, la jouissance et le plaisir ne sont pas réservés qu'aux humains. Les autres animaux font aussi l'amour pour le plaisir et non pas forcément pour maximiser leur nombre de descendants. Le plaisir et l'orgasme seraient même les moteurs de l'évolution. Et au cours de cette émission torride, mais néanmoins autorisée pour les plus jeunes, eh bien vous allez découvrir qu'au fil du temps, chez des centaines d'espèces, la recherche du plaisir a été décorrélée de la reproduction. Le sujet est certes controversé, mais c'est l'occasion de lever le voile sur la vie sexuelle du crocodile, du bonobo, mais aussi de la mouche ou du marsouin commun, grâce au livre que vous publiez. Thierry Leudet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Ce livre, eh bien, c'est l'histoire naturelle du plaisir amoureux. Il paraît chez Odile Jacob. Vous êtes professeur d'écologie évolutive et directeur de recherche à Rennes 1, spécialiste des amours et des sexualités animales. Et on va vous retrouver donc dans un instant. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30 pétante, on retrouve Camille Passauvert.
Et je vais vous parler des 30 km/h à Paris et puis ailleurs dans le monde aussi. Bonne ou mauvaise idée?
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal Lemontagnier, avec la participation de Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et à la technique aujourd'hui, Adèle Caglar.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Prédateur hors pair, plus grand félin, aucun ennemi et une sexualité débridée. Plus de 150 fois en deux jours d'orgie. Ce prodigieux appétit sexuel est dans la nature même du lion. C'est un véritable maniaque sexuel. Mais s'il se livre ainsi à des copulations incessantes et presque mécaniques, c'est à cause d'elle. Car il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour féconder une lionne. Il s'agit de la stimuler avec vigueur. On a calculé que pour chaque lionceau qui survit jusqu'à son premier anniversaire, papa et maman ont dû faire l'amour 3000 fois.
Mais était-ce justement pour avoir une descendance, Thierry Le Débet? Pas forcément, c'est ce qu'on découvre en lisant votre ouvrage, parce que ce lion et cette lionne ont pu avoir ces accouplements uniquement pour le plaisir, c'est au fond l'idée de ce livre. Hein.
Alors c'est pas tout à fait ça, mais ça s'en approche tout de même. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que de toute façon, la sexualité, c'est quand même le plus mauvais moyen de se reproduire, voilà encore la preuve, si on ne réussit qu'une fois sur 3000, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui incite à recommencer tout de même.
Ouais. Et le plaisir, ce serait central alors, finalement, alors, dans le plaisir, relations sexuelles?
Le plaisir, ce serait central. En fait, dans mon ouvrage, j'ai essayé d'analyser comment était arrivée cette sorte d'incongruité de l'évolution, à savoir le fait de ressentir du plaisir, puisque c'est apparemment absolument pas nécessaire pour se reproduire. Des tas d'espèces se reproduisent en se coupant en petits morceaux, etc., et sans faire du tout d'efforts, alors que dans l'activité sexuelle, c'est absolument incroyable, les efforts auxquels il faut consentir, le travail d'approche, le travail d'excitation, enfin tout un ensemble de choses qui sont ahurissantes, tout ça pour ressentir quand même quelques secondes, voire quelques minutes dans le meilleur des cas, cette incroyable explosion des sens qu'on appelle le plaisir. Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans l'évolution? Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi les animaux ont-ils inventé ça?
Alors vous êtes professeur d'écologie évolutive, je disais, et donc ce livre paraît. Alors moi je me souviens, la première fois qu'on vous a reçu, c'était en 2007, au micro de France Inter, pour un autre livre qui s'appelait La guerre des sexes, et vous êtes toujours resté dans ce domaine finalement des sexualités animales. Mais qu'est-ce qui vous intéresse autant, vous, là-dedans?
Eh bien, tout d'abord parce que cette sexualité animale, elle nous ouvre les portes sur des perspectives totalement nouvelles. Alors qu'auparavant, on comprenait la sexualité comme étant une instance de reproduction et qu'elle servait un petit peu à l'évolution, en travaillant sur d'autres aspects de cette sexualité, on a pu se rendre compte à quel point elle était une interaction nécessaire au vivant et que, comme beaucoup d'autres interactions, elle a inventé l'écologie, elle a inventé tout un ensemble d'éléments que maintenant je baptise l'écologie évolutive et qui permettent de donner une forme cohérente à l'histoire du vivant. Et c'est ça qui m'intéresse le plus.
Et on découvre toujours de nouvelles choses dans ce domaine, alors?
Alors, on découvre toujours de nouvelles choses, donc on en réinterprète, parce que vous savez que la science, c'est aussi faire beaucoup d'erreurs, et donc revenir sur ces erreurs, repartir autrement, enfin, retravailler sur tout ça, ce qui fait que les nouvelles interprétations nous permettent souvent, à partir de choses qui sont parfois très connues, l'homosexualité animale, par exemple, est connue depuis 1820, vous voyez, c'est pas très nouveau, mais il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on lui apporte la place qu'elle méritait dans le processus évolutif et évidemment dans le processus du vivant.
Puisque vous en parlez, on va écouter Fleur Dauget qui est écologue et qui justement connaît très très bien ce sujet de l'homosexualité des animaux. On l'écoute et on commente juste après ses propos.
L'homosexualité, elle est dans la nature. C'est un comportement tout à fait normal, naturel, qui fait partie du répertoire des comportements des animaux. On l'a observé chez à peu près 1500 espèces. Par exemple, le grand dauphin, hein, le dauphin gris que tout le monde connaît, il y a beaucoup d'homosexualité entre mâles chez ces espèces-là. Il y a même des couples qui durent tout au long de la vie, et aussi chez les femelles. Il y a beaucoup de formes différentes, finalement, d'homosexualité animale. Il va y avoir aussi bien des câlins, des caresses, que des coïts francs. Et, par exemple, il y en a un qui s'appelait Gadot de Kerville, qui a étudié la pédérastie à l'époque. Il parlait de la pédérastie chez les hannetons. Il avait montré, cet auteur-là, que chez les hannetons, les mâles copulaient ensemble, alors même qu'il y avait des femelles à disposition autour d'eux. Donc, il y avait ce qu'il appelait une pédérastie par goût à l'époque. Et alors ça, c'était un gros problème.
Voilà. C'est intéressant de le rappeler quand même, ça, Thierry Lodé.
C'est tout à fait passionnant. En fait, on découvre petit à petit que il y a des sexualités animales et qu'elles peuvent prendre des tours et des détours tout à fait incroyables, mais simplement parce qu'on les a pas bien observées ou qu'on les a mal interprétées essentiellement. Ouais. On voit bien ce que dénonçait Flore d'Auger, là, c'est effectivement tout l'aspect idéologique qui restait derrière, parce que parler de pédérastie, on n'oserait plus faire ça de nos jours, ouais, quand même.
Mais alors, la question du plaisir, là aussi, hein, finalement, on est dans des représentations culturelles, religieuses, et des tabous énormes qui ont même empêché, au fond, les scientifiques d'en parler pendant assez longtemps.
Hein. Bah, jusque quasiment dans les années 60, on ne parlait que éventuellement de la souffrance animale, hein, c'est le côté négatif de la sensibilité, et le côté positif, à savoir le plaisir, on ose encore à peine en parler. Je crois que c'est le premier livre qui sort sur cette thématique-là.
Ouais. Ça dit quoi, alors, au fond, de ce sujet-là? C'est qu'il reste tabou, scientifiquement plus étudié, ça veut dire quoi?
Il rentre pas dans le cadre. Il rentre pas dans le cadre. La thématique du plaisir, comme la thématique d'ailleurs de la sexualité animale, reste une grande énigme biologique, et donc ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on peut expliquer. On n'arrive pas à bien comprendre le processus évolutif à travers cela, alors qu'en fait il le dynamise, mais ça, il faut essayer de passer tout un ensemble de tabous, de démarches bien trop orthodoxes pour réussir à entrer dans la réalité de l'expression du plaisir animal.
Mais justement, comment est-ce qu'on peut évaluer le plaisir, que ce soit humain ou animal, puisque c'est quelque chose de totalement subjectif. Donc, est-ce que on parle beaucoup d'anthropomorphisme? Est-ce que c'est pas encore une forme d'interprétation de quelque chose d'humain sur des animaux? Comment on évalue le plaisir d'un animal?
Alors, vous avez remarqué que le livre est partagé en gros en trois gros secteurs. Le premier gros secteur consiste justement à savoir comment on peut identifier cette sensibilité animale. En fait, on a appris depuis un certain temps qu'il existait des systèmes nerveux chez les vertébrés. Quand on remonte de plus en plus haut, on retrouve tout un ensemble d'éléments qui sont des systèmes nerveux différents, pas aussi particuliers, pas aussi lisibles. Mais toujours est-il qu'à l'intérieur de tous ces éléments qui vont participer à la sensibilité animale, il y a des critères qui vont petit à petit être donnés pour comprendre ce qui se passe. On voit bien, par exemple, que si tel circuit nerveux se met en route au moment où l'animal reçoit un coup sur la figure, et qu'il se met pas en route au moment, ou qu'il se met en route autrement dans un autre moment, on s'aperçoit bien qu'il se passe quelque chose. Comme on retrouve tout le long de la phylogénèse, tous ces éléments qu'on a appelés depuis maintenant quelques années, depuis les années 50, je crois, le circuit nerveux de la récompense, comme on retrouve tous ces éléments du fameux circuit nerveux de la récompense, on a petit à petit commencé à comprendre comment, en fait, les stimuli extérieurs pouvaient provoquer quelque chose là-dedans. Alors, pendant longtemps, on a cru que c'était juste un système qui était addictif, hein, on a travaillé ça chez les rats, on voyait que le côté négatif de tout ça, mais petit à petit, il faut bien l'avouer, quand deux rats copulent, il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose dans ce système du circuit nerveux de la récompense, avec en écho tout ce qui se passe dans le corps, parce qu'il y a également
des effets physiologiques, donc voilà, vraiment, qui se manifestent.
Hein. Voilà, la lordose, des comportements, des éléments physiologiques, des sécrétions de neurohormones, tout un ensemble d'éléments qui nous permettent de dire, ça se passe comme ça, donc a priori c'est quand même l'expression de quelque chose d'autre.
Donc c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui sont payés pour aller observer des animaux en train de copuler et pour en déduire qu'il s'agit bien d'un moment de plaisir, d'un orgasme.
Voilà.
Et tout ça, selon les espèces, j'imagine que ça change aussi, non?
Alors, ça pourrait changer selon les espèces. En général, on retrouve quand même les mêmes critères, physiques, physiologiques, sécrétoires. On retrouve un peu toutes les mêmes choses. Surtout, évidemment, chez les vertébrés, qui partagent quand même ensemble tout un ensemble de circuits nerveux. Mais ces éléments qui sont associés les uns les autres fonctionnent en fait en parallèle, en cohérence. Donc c'est très probable que évidemment ce système-là fonctionne comme un plaisir. Après, on ne peut pas affirmer évidemment que ça soit le même plaisir que celui que nous on ressent. Ouais. Là, on rentrerait dans l'anthropomorphisme. En revanche, dire qu'il se passe quelque chose, que tous ces circuits sont activés et qu'effectivement ça déborde de ça, on est noyé quand on reçoit un orgasme. Voilà,
Gérald sur Facebook est très intéressé par cette notion de plaisir animal, plaisir humain, et on voudrait savoir comment est-ce qu'on peut l'évaluer, c'est-à-dire que les lions, par exemple, dont on parlait au début de l'émission, on ne va pas regarder en laboratoire quand ils copulent ce qui se passe, donc comment est-ce qu'on peut savoir que physiologiquement il se passe quelque chose quand deux lions sont en train de copuler, de l'ordre du plaisir?
Toutes les analyses faites en laboratoire vont répondre aux analyses qui sont faites après dans le monde normal. Mais vous savez, lorsqu'il y a un orgasme, il se passe tout un ensemble de contractions musculaires qu'on peut parfaitement mesurer.
Et ça, on peut le faire à distance, même sur des animaux comme des lions ou des éléphants.
Oui, bien sûr. On peut non seulement le faire à distance, mais plutôt dans des zoos, dans des choses comme ça, mais on peut aussi le constater des faits par l'image, par la photo. La constriction, par exemple, de l'anus au moment du plaisir chez les lions, ça se voit. C'est pas quelque chose qui est caché. On de la la même manière, quand on voit deux lions qui pratiquent une sodomie, on se doute bien qu'il y a là quelque chose qui ferait normalement fuir l'un ou l'autre, alors qu'au contraire, là, il s'y adonne volontiers. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, nous montrent bien que le mécanisme du plaisir est un mécanisme essentiel. Pourquoi d'ailleurs, chez les espèces animales, les expériences positives de ce type auraient été mises de côté? Vous savez, chez la paramécie, c'est parfaitement évité dans l'algue, dans sa petite goutte d'eau, quelque chose qui a un milieu acide ou un milieu qui serait pas favorable. Et elle va forcément aller vers un milieu favorable. Tout ça, ce sont des expériences qui datent de très très longtemps. Et on voit bien que la plupart des animaux vont fuir le déplaisir, ce qui est vital. Et au contraire, rechercher des éléments de plaisir, ce qui est aussi vital.
La paramécie, qu'est-ce que c'est, Thierry Ledoux?
La paramécie, c'est un petit protiste. Hein, c'est 10 000 fois plus gros qu'une bactérie, mais enfin, ça vit très bien dans une simple petite goutte d'eau avec des milliers de paramécies. Hein, c'est ce qu'on appelle un eucaryote primitif. C'est des espèces qui ont déjà des noyaux dans leurs cellules.
J'allais aussi vous demander, c'est quoi un protiste finalement?
Pour expliquer on appelle ça protozoaire avant vous sonner à l'école.
C'est ça, mais on a le droit d'ouvrir des tiroirs aussi pour bien comprendre.
Si vous restez avec nous dans un instant, vous allez entendre l'orgasme de la tortue. Thierry Ledoux, notre invité pour cette histoire naturelle du plaisir amoureux.
Sur France Inter, une rediffusion de La Terre au Carré.
Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran et au sauna à Sahana, j'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la cool à Lourdes, j'ai été lourde et à Lourdes. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier.
L'aventurier Jacques Dutronc, bien sûr.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Thierry Ledoux avec votre histoire naturelle du plaisir amoureux. C'est aux éditions Odile Jacob. Je l'ai promis tout à l'heure, nous allons entendre l'orgasme de la tortue. Parce que finalement, les enregistrements, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Hein, quand on souhaite vraiment entendre de quoi il s'agit. Alors, on en a trouvé un. Eh bien, le voici. Imaginons donc cette tortue.
C'est quand même spectaculaire.
C'est vrai, hein. Ouais. Et donc ça, on peut l'interpréter comme étant un orgasme, Thierry Ledoux.
Le son en lui-même ne fait qu'accompagner la manifestation d'orgasme. Pour savoir si effectivement l'individu à ce moment-là a un orgasme, il faut quand même mettre quelques électrodes et quelques autres éléments pour vérifier ce qui se passe. Mais effectivement, on sait maintenant que dans la plupart des groupes animaux, en tout cas chez tous les vertébrés, ça c'est une certitude, chez de nombreuses autres espèces, on a moins de savoir. Quoi qu'on a appris récemment que la mouche était capable de jouir aussi.
Oui, c'est ce que vous écrivez, la mouche jouit.
oui.
Bon.
Alors ça, c'est une découverte quand même intéressante, puisque c'est simplement que l'éjaculation est la forme jouissante de la mouche. Ce qui nous emmène aussi sur qu'est-ce qui fait jouir, vous voyez, qu'est-ce qui va déclencher le plaisir. On tombe toujours dans l'état d'esprit que ça va être l'excitation du pénis ou l'excitation du clitoris qui peuvent favoriser cette jouissance, alors qu'en fait, c'est juste des moteurs pour faire avancer les éléments jusqu'à la jouissance, qui, elle, va être définie réellement par la libération des glandes, la libération de la prostate chez l'homme, qui est ou chez tous les mâles, qui est évidemment l'élément important. Et puis après, d'autres glandes beaucoup plus discrètes chez les femelles, mais qui vont avoir aussi, qui montrent l'importance évolutive qu'a eu le plaisir, notamment pour la reproduction, à un moment donné.
Alors justement, la question des mâles et des femelles, des deux sexes, eh bien, c'est l'objet de la question de la note vocale d'Hélène, justement sur l'application France Inter.
Alors bonjour à tous, merci de recevoir mon audio et ce sujet est très intéressant et j'ai à ce titre lu le petit synopsis et un titre m'a fait réagir, celui qui s'intitule « Comme les hommes, les animaux jouissent aussi ». Et donc il est d'usage d'utiliser le mot « homme » pour parler d'hommes et femmes, mais en l'occurrence il est écrit avec un minuscule et je trouve très dommage que jouissance et de plaisir que pour les hommes et qu'on oublie les femmes. Je suggérerais l'utilisation du mot « humain » pour parler autant des femmes de l'espèce humaine que des hommes de l'espèce humaine.
Voilà, ça c'était sur le site de l'émission, donc évidemment on va le corriger parce que le H minuscule, on va le passer déjà en H majuscule.
On va mettre humain et puis c'est tout.
Voilà, on peut parler d'humain même aujourd'hui, c'est encore mieux.
Je crois que dans mon livre, je fais toujours un gros effort pour justement parler d'humain et non pas d'homme en soi, puisque lorsque je parle de femme ou lorsque je parle d'homme, là je parle bien effectivement des deux genres du groupe humain. Et c'est important, parce qu'il est vrai que si l'éjaculation est très évidente chez l'homme pour approuver le phénomène du plaisir et qu'on comprenne que ça s'indique, chez la femme, on a justement beaucoup plus de mystère. Ce qui a conduit d'ailleurs à des choses très, très ambiguës, très, très peu claires, très confuses parfois sur pourquoi est-ce que il n'y aurait pas cette manifestation du plaisir aussi évidente que ça. Et c'est grâce en fait à cette absence de manifestation, donc c'est surtout aux femmes qui ont eu des problèmes qu'il faudrait remercier, puisque c'est justement grâce à ça qu'on a pu se rendre compte que le mécanisme orgasmique était un mécanisme évolutif qui avait rapport avec le plus long passé, le plus archaïque de ce qui s'est passé avant d'arriver à l'être humain.
Et alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui est à l'origine? Est-ce que le plaisir est à l'origine de la reproduction ou la reproduction, le besoin de reproduire éventuel, à l'origine du plaisir?
Les espèces vivantes se sont faites par petits morceaux. Tous ces petits morceaux n'ont pas fonctionné ensemble en même temps. Certains ont donc fonctionné, d'autres ont mal fonctionné, etc. Le mécanisme reproducteur a existé évidemment dès le début du vivant. Mais il s'agissait surtout de se découper en deux au départ. Il n'y avait pas d'autres efforts à faire comme le font de nombreux vers. Hein. On se coupe en deux, on met un petit morceau de là et on se reproduit. Là du coup c'est très simple, sauf qu'on ne produit que de l'identique. Avec l'arrivée de la sexualité chez les eucaryotes, voilà que d'un seul coup, on s'est mis à produire de la différence. Vos enfants, les miens, sont étroitement différents de moi. Ils sont à la fois proches, mais pourtant extraordinairement différents. Et entre les deux, évidemment, entre cette sexualité qui va produire du différent et cette reproduction qui va produire de l'identique, il va bien falloir qu'il y ait de temps en temps des accroches. Cette accroche, c'est le mécanisme du plaisir, qui lui-même va petit à petit dégager la sexualité de la reproduction, mais aussi par un retour tout à fait fabuleux du mécanisme évolutif, encourager la multiplication des partenaires, la multiplication de la reproduction, à un moment donné où justement, on se reproduit de moins en moins.
Ouais, c'est une ode à la diversité et à la différence justement ce livre aussi,
tout
hein, Thierry
Laudet,
parce que c'est absolument central justement. Et vous expliquez au fond le rôle de la sexualité, le rôle du plaisir, pour la biodiversité aussi.
Oui, hein. Parce que tant qu'on reste ancré dans l'hypothèse qu'il faut une sorte de fonction mathématique d'invasion des gènes pour que l'évolution se passe, on ne fait que reproduire. Or, il ne s'agit pas de ça. On voit bien que dans l'évolution, chez la plupart des espèces animales, on a eu, au contraire, un affaiblissement des capacités reproductives, un affaiblissement du succès reproducteur, de moins en moins, et des différences drastiques, hein, parfois, entre, par exemple, la morue qui peut faire 4 millions d'œufs et l'éléphant qui fait un petit tous les 4 ans.
Ouais.
Cette réduction drastique des taux de reproduction doit bien quand même expliquer quelque chose. Et en fait, elle explique justement l'importance qu'a eu le plaisir pour multiplier les actions, les partenaires et surtout multiplier les copulations et les possibilités de se reproduire. Mais attention, la sexualité n'est pas faite pour se reproduire, elle est d'abord faite pour solliciter tous ces événements-là. Et puis, on le voit d'ailleurs avec l'homosexualité dont on a parlé tout à l'heure, et la reproduction, elle est très à part de tout ça. Mais on ne se rencontre pas pour se reproduire, on se rencontre d'abord parce qu'on a envie d'être ensemble, parce qu'on y éprouve du plaisir, et c'est ça qui va induire par la suite la possibilité de copuler souvent, y compris avec d'autres.
Parce que... Et cette idée-là, celle que vous nous exposez à l'instant, Thierry Ledé, elle est controversée justement ?
Oui, oui, oui. La plupart du temps, le problème du néo-darwinisme actuel, c'est qu'il accepte beaucoup de choses, mais en même temps, il les refuse énormément en même temps. C'est assez complexe de bien comprendre. En théorie du moins, si on prend le néo-darwinisme pur, l'idée est fort simple. On va laisser nos gènes sur la planète, et plus on laissera nos gènes, plus on aura des chances de continuer à survivre, et c'est ça qui fait exister les espèces. Mais le problème, c'est qu'en tenant pas compte d'autres mécanismes qui sont en roule, y compris notamment les mécanismes écologiques, les relations, les interrelations, ouais, dont la sexualité est une des pires. Hein. La sexualité, c'est une des interactions les plus complexes et les plus archaïques qu'on ait. On ne sait pas du tout pourquoi on fait ça, ni comment. On ne peut pas du tout le définir comme tel. Et on le multiplie. Eh bien, en tenant compte de ces mécanismes d'interaction, on approche d'une écologie. Et on s'aperçoit que l'évolution de la planète ne résulte pas seulement d'une diffusion à l'infini de mêmes gènes, mais bien au contraire de la diffusion de certains éléments génétiques ou pas, qui vont se passer selon tout un ensemble d'éléments, mais que ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on va chercher, c'est l'expression de ces gènes. Et là, évidemment, dans les formes de la sexualité, on va avoir toutes ces commandes, ces arrière-cours nébuleuses qui se passent depuis les gènes jusqu'au cerveau, qui vont enclencher des différences, notamment à travers la recherche de multiples partenaires.
Mais c'est cette idée de cuisine dont vous parlez aussi,
voilà, oui,
cette petite tambouille des gènes.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Cette idée du gène livre de cuisine explique simplement quelque chose de très simple, c'est qu'une recette de cuisine n'a jamais réussi à faire un gâteau toute seule. Ouais. Dans une recette de cuisine, vous avez la farine, on va dire que c'est le gène de la farine, mais ce gène de la farine, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour faire du pain, que pour faire un biscuit, que pour faire épaissir une sauce ou tout un ensemble de choses. Le gène ne fonctionne pas tout seul, il ne fonctionne pas sans la machinerie cellulaire qui va l'exprimer et qui va l'exprimer plus ou moins bien. Il y a même des expressions contraires entre la souris mâle et la souris femelle, par exemple. Ces expressions des gènes qui vont se contredire dans un conflit particulier. Et c'est très important parce qu'on est à l'ère, vous voyez, de Dawkins, Richard Dawkins et de son fameux gène égoïste. Et on a l'impression qu'en fait, le gène fait tout. Et que, il n'y a pas très longtemps, on a décodé le génome humain. On ne peut pas vraiment dire que ça nous a apporté. Bon, c'est une belle découverte scientifique, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais c'est pas le méga de
aujourd'hui, on parle de l'épigénétique quand même aussi, de tout ce que l'environnement produit.
On commence à comprendre que ce qui se passe sur notre planète, ce sont des interrelations, des interactions écologiques.
Et vive la diversité.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, et on passe au vert.
Et j'ai un panneau. Bon, alors un faux panneau, hein, sinon ça pèse une tonne, et puis surtout on n'a pas le droit de les embarquer, bien évidemment. Donc c'est de la fabrication maison, très artisanale, comme vous pouvez le voir si vous regardez plus tard sur Internet.
Ouais, hein, mais le message est clair. Hein.
J'ai même pas la couleur, donc c'est un panneau 30 km/h. Nouvelle limitation de vitesse dans Paris. La mesure est entrée en vigueur hier avec un objectif clair, réduire au maximum l'utilisation de la voiture dans la capitale. C'est assumé par la mairie et l'adjoint écologiste David Béliard.
Vous savez, on est face à des dérèglements climatiques majeurs, on est face à des questions de santé publique qui sont majeures, et notamment en termes de pollution de l'air. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas continuer à se déplacer comme nous nous déplacions il y a encore 20 ou 25 ans. Et les villes de demain, ce seront des villes, effectivement, où on se déplacera autrement. On se déplacera plutôt avec des transports en commun, des vélos et des voitures partagées, mais avec des motorisations qui seront des motorisations plus propres.
Voilà, c'était hier sur France Info. La mesure a donc aussi une dimension écologique, en plus des questions de sécurité, un meilleur partage entre usagers et de bruit. Mais l'impact environnemental fait débat. Il y a eu une grosse polémique ces derniers jours pour dire qu'en fait le passage aux 30 km/h générait plus de pollution de l'air. Et c'est vrai que si on prend individuellement une voiture à 30 et une autre voiture à 50 sur 1 km de parcours, il va y avoir une différence. Explication avec Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports.
Comme les moteurs sont optimisés autour de 70 km/h, quand on est au-dessus de cette vitesse-là et plus on va au-dessus, plus les émissions sont importantes. Et plus on diminue aussi la vitesse par rapport à la vitesse moyenne de 70 km/h, plus les émissions pour une vitesse moyenne vont augmenter. Donc pour une vitesse moyenne de 30 km/h, par kilomètre parcouru, encore une fois, on est à des émissions plus fortes qu'à 50 km/h parce que les moteurs ne sont pas optimisés pour rouler à faible allure comme ça.
Donc oui, hein, techniquement à 30, il y a plus de pollution, sauf, et c'est bien la suite qui est la plus importante, mais que beaucoup de contradicteurs ont complètement zappé, sauf donc que ce sont surtout les phénomènes d'accélération et de freinage qui génèrent de la pollution. Et à 50, eh ben, y en a des plus brutaux, hein, des accélérations et des freinages qu'à 30. Ensuite, en général, eh ben, plus on peut rouler vite, plus on va faire de kilomètres, donc le monteur va tourner plus longtemps, à 50 qu'à 30. Et enfin, c'est lié, hein, pour les trajets les plus courts, l'idée c'est justement de faire abandonner la voiture au profit d'autres moyens de déplacement comme le vélo, les transports en commun ou à pied. Ça s'appelle le report modal.
Quand on intègre ces reports modaux et du coup ces impacts indirects, là on peut avoir un bénéfice de la mesure sur la pollution de l'air ou sur les émissions de gaz à effet de serre.
Exemple à Grenoble, où comme dans 250 autres villes en France, les 30 km/h sont en place. 9% de voitures en moins en circulation depuis 2016, donc depuis que ça a été mis en place à Grenoble. Donc impact positif pour le climat et la pollution, et beaucoup le reconnaissent.
Ah bah pour la planète c'est bien, ouais pour la planète, non, mais il faut tout simplement effectivement que les gens arrêtent de prendre leur voiture. Hein. Donc c'est une transition douloureuse, mais qui je pense un mal pour un bien à la fin de toute façon. Hein.
Un mal pour un bien, dit la dame, parce qu'elle pense quand même que les 30 km/h vont d'abord créer plus de bouchons, et ce n'est pas la seule.
Ça va créer des bouchons.
Mais il y en a déjà tout le temps.
Ah ben déjà tout le temps, donc ça va nous embêter davantage. Aucun intérêt, moi je vois vraiment pas du tout aucun intérêt, que ce soit économique, écologique, il n'y a aucun intérêt.
C'est une bêtise.
Pourquoi ?
Parce que les gens vont, ça va avoir des queues et des queues et des queues.
30 km/h, franchement, je trouve ça complètement ridicule. On va bientôt avoir les vélos qui vont nous dépasser.
Et ben en même temps, c'est souvent déjà le cas, hein, puisque la vitesse moyenne à Paris, dans les faits, c'est 12 km/h. Du coup, Mickaël, taxi depuis 22 ans, bah lui, il est honnête.
Ah, de toute façon, ça ne change rien, madame. Parce qu'avec les bouchons dans Paris, on ne les fait même pas les 30 km/h.
Donc vous voyez pas ça d'un mauvais œil ?
Non, au contraire, moi je préfère parce que je suis pas un type nerveux en conduite. D'ailleurs, quand c'était 5 ans, je me faisais tout le temps engueuler. Maintenant qu'il y a 30, je suis très content parce que j'ai de quoi leur répondre. C'est 30 maintenant.
Eh ben voilà. Alors sachez que 61% des Parisiens sont favorables à la mesure, d'après un sondage Ipsos.
Ah, c'est bien pour les Parisiens.
Ben oui, les Parisiens, ils n'ont pas de voiture. De
ben évidemment.
Eh oui, en même temps, c'est normal. Alors ce monsieur en moto, lui, il habite en banlieue, hein, donc il est beaucoup moins emballé pour l'idée du report modal.
Les transports en commun sont complètement saturés aujourd'hui. On a quand même un petit sujet là-dessus. Les métros, le matin... C'est l'enfer.
Et c'est ça la priorité selon lui, avoir des transports et un réseau digne de ce nom avant de baisser la vitesse. En attendant donc, bah lui continue avec sa moto.
C'est un véhicule en location d'achat. À la fin de ma LOA, je me poserai la question de renouveler. Bon, mais je suis en début, je l'ai pas quand même. Je l'ai prise il y a 3 mois, je vais quand même pas résilier ma LOA.
Bon, donc à 30 km/h, donc, hein, il continue avant de passer peut-être à un autre de roue, donc le vélo, dans 2 ou 3 ans.
Et c'est Camille Passauvert que vous réécoutez bien sûr sur le site de l'émission sur franceinter.fr.
Thierry Laudet, en termes de limitation de vitesse, tiens, les animaux, je crois que 30 km/h, c'est la vitesse moyenne des oiseaux, c'est ça?
Voilà, oui, les petits passereaux, c'est à peu près ça. On a vu que le moineau pouvait aller un petit peu plus vite, mais c'est quand même plutôt de l'ordre de 30 à 40 km/h.
C'est pas mal, hein, quand même.
C'est pas mal.
Ouais. Et les plus rapides dans les animaux, vous savez?
Le faucon pèlerin, mais c'est vous qui venez de le dire, à 390 km/h. Ouais. Je ne connaissais pas la vitesse exacte, c'est de l'ordre de 300 km/h. Oui.
Mais c'est en piqué, c'est
Alors
ça?
C'est en piqué seulement. Le faucon pèlerin, c'est un rapace qui monte très haut dans le ciel et qui fond d'un seul coup sur un pigeon ou une perdrix à toute vitesse.
Il y a des oiseaux qui copulent en vol, d'ailleurs, tiens, ou pas?
Ah, je ne pense pas, moins que chez les... Oh là, vous me posez une sacrée colle. Je pense que ça doit arriver chez des animaux peut-être comme les salanganes, qui sont des hirondelles asiatiques. Ouais. Et je me demande chez le martinet, mais là, les ornithologues ont peut-être plus de connaissances que moi.
Ah, mais s'il y a des ornithologues qui nous écoutent, vous nous envoyez un petit message ou une note vocale sur l'application France Inter. Allez Thierry Laudet, on se retrouve dans un instant pour cette histoire naturelle du plaisir amoureux.
Discover with a glare you ask where my
to tell me who I am.
C'était Michel avec Fayot et Y.O. à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Les hyènes sont des charognards. Ouais. Les charognards, pour aller disputer leur viande aux autres animaux de la jungle, même aux lions, ont besoin d'être très agressives. Les hyènes. C'est pour ça que même les femelles ont un taux très élevé de testostérone. La conséquence, c'est qu'elles ont des organes masculins qui se développent sous l'influence des hormones mâles. Donc, le clitoris s'allonge jusqu'à une cinquantaine de centimètres.
50 centimètres ?
Voilà. Les lèvres se soudent pour former un pseudo-scrotum. Tu vois ? Alors, comment il y a accouplement d'un pénis avec un autre pénis ? Mais simplement, le pénis de la femelle se retrousse comme les manches d'une chemise. Et à ce moment-là, le mâle, quand elle est d'accord, peut la pénétrer. Alors après, effectivement, il y a le problème de l'accouchement. Alors à ce moment, le pénis de la hyène femelle, lui, comme un ballon, s'écrase. Et à ce moment-là, elle peut accoucher.
Voilà, la hyène et son pénis, raconté par Frédéric Lévineau sur le site du Point en 2014. Thierry Laudet, alors on parle de pénis ou de long clitoris érectile dans ce cas-là?
C'est plutôt un clitoris érectile qu'un pénis, mais on peut appeler ça un pseudo-pénis dans la mesure où chez les hyènes, comme chez la taupe, hein, ou chez le loris grêle, ou encore chez la fossa, ce clitoris énorme va évidemment avoir une fonction beaucoup plus sociale que fonction sexuelle. On retombe dans le problème du rôle des organes sexuels. Dans la réalité, il n'y a pas un taux de testostérone aussi grandiose chez les hyènes qui permettrait d'expliquer ça. Bien qu'on ait beaucoup cherché à en rendre compte de cette manière. C'est plutôt un phénomène social, c'est-à-dire que les hyènes, en ayant ces attributs particuliers, vont effectivement prendre davantage leur sexualité en main et vont davantage figurer comme un peu les Amazones du monde de la nature en exigeant de leur partenaire des choix. Le partenaire en question, d'ailleurs rarement quelqu'un de leur groupe, elles vont surtout chercher des partenaires à l'extérieur de leur groupe et encore faut-il qu'elles les acceptent, ces méchants hyènes. Mais c'est pas que des charognières en plus les hyènes, hein, c'est des vrais chasseuses, des vrais chasseurs. Donc, vous voyez, une partie de ce qu'on pensait il y a quelques temps est déjà largement tombée.
On a un petit message de Marie qui est illustratrice naturaliste et elle nous dit « Oui, les martinets copulent en vol. J'ai eu la chance d'y assister une fois par pur hasard et j'ai eu confirmation par des ornithologues. »
Eh bien voilà, c'était quelque chose qui me turlupinait.
Voilà. Merci Marie qui nous écoute et qui dessine certainement en même temps.
Une question de Mathilde sur l'application France Inter. Pour en revenir, nous dit-elle, à l'exemple des lions, il me semble que les félins ont des sortes de picots sur le pénis afin que la femelle ne puisse pas fuir lors de la reproduction et de la procréation. Pensez-vous qu'il ne s'agisse alors que d'une contrainte pour la femelle, Thierry Laudet ?
Alors, la morphologie des organes sexuels n'est pas la seule chose qui intervient dans le plaisir. Hein. Il faut le redire, il y a des tas d'animaux qui ne disposent ni de pénis, ni de clitoris, ni même de vagin, mais d'un cloaque, et qui sont parfaitement capables de jouir. Bon, je referme la parenthèse. Après, les différents pénis résultent de quoi ? Eh bien, ils résultent de ce que j'ai appelé être le tir à la corde, le conflit sexuel dont je parlais un petit peu dans mon livre, mon Dieu, d'il y a si longtemps, et qui explique en effet que l'évolution fonctionne comme une interaction. C'est-à-dire qu'entre les mâles et la femelle, il faut se mettre d'accord. Et cette mise au point, elle n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi organique. Pendant très longtemps, on a répondu à la possibilité d'aller féconder le plus loin possible dans le tractus génital des femelles. Le tractus génital des femelles a répondu par une musculature différente, par tout un ensemble d'éléments. Alors, le pénis des chats fonctionne plutôt comme un velcro que comme un paquet d'épines. Parce que le paquet d'épines, ça serait quand même pas facile dans cet endroit ultra sensible tout de même.
Ouais. Ah, justement, on va écouter la note vocale de Jean qui parle justement des chats et des chiens. Vous allez lui répondre.
Bonjour. Est-ce qu'il ne faut pas voir dans la domestication du chien et du chat une aptitude plus grande à cette sensibilité liée aux caresses?
Alors Thierry Laudet, vous répondez à Jean et puis on poursuivra la réponse à la première question là sur les lions.
J'ai pas bien compris en fait où ce monsieur voulait en venir. C'est-à-dire que en fait dans le mécanisme des organes sexuels, là, on le répète, il y a de toute façon une interaction millénaire. Ça fait des milliers et des millions d'années que les vagins répondent aux pénis. Et avant les vagins et avant les pénis, il y avait d'autres formes d'éléments plutôt comportementaux. Comme chez les poissons. Tous ces éléments-là vont participer à quelque chose que j'ai défini tout à l'heure, à savoir le plaisir qui s'extrait des glandes. Tout vient soit d'éjaculation à la base, ou au contraire, ça vient de l'éjection des liquides ovariens et des glandes de Gerinsken. Ce sont ces deux éléments qui provoquent cette décharge qu'on appelle le plaisir.
Mais pour en revenir, alors, est-ce que nous est Mathilde sur les lions, en demandant s'il n'y avait pas des contraintes pour la femelle de temps en temps. On a entendu aussi sur les canards, je crois, les colverts qui auraient un pénis en tire-bouchon pour pouvoir accrocher on dit que ce sont des violeurs.
Oui, bien sûr. Mais il y a aussi des contraintes sur les mâles. Prenez par exemple la menthe religieuse. Elle n'est pas gentille avec le mâle, si mes souvenirs sont.
Mais donc il n'y a pas du plaisir à chaque fois, ça veut dire.
La question n'est pas de qu'il y ait ou non du plaisir à chaque fois. La vraie question, c'est que c'est une interaction. Dans cette interaction, il y a un conflit. L'intérêt des mâles, l'intérêt des femelles sont différents. Il faut donc réussir à se mettre d'accord. Se mettre d'accord d'un point de vue évolutif, c'est aussi fabriquer des organes, modifier des odeurs, modifier tout un ensemble de choses. Donc ça ne se passe pas facilement. Mais évidemment, comme c'est un tir à la corde, ce tir à la corde, il peut aller dans un sens ou dans l'autre. Certaines fois, certaines espèces vont gagner ce tir à la corde, entre guillemets, parce qu'elles le perdent aussi, hein, puisque au fur et à mesure que les mâles blessent les femelles ou les violent, ben, les femelles ont moins envie de copuler, vous voyez. Mm-hmm. Et inversement, lorsque les animaux sont trop gentils entre eux, ben, l'autre peut essayer de tirer un peu plus la corde à lui, et on va avoir des femelles, comme chez le jacana, qui vont dire au monsieur, ben, écoute, t'occuper des bébés, moi je pars avec les copines faire un tour, vous voyez. Donc, on a, dans ce tir à la corde, un mécanisme évolutif. Ce mécanisme évolutif est basé sur la contradiction des rôles. C'est ça qu'on appelle une interaction. Le propre de la nature, c'est que chacun se mêle de la vie des autres. C'est pour ça qu'on peut pas faire une réserve naturelle dans un coin perdu, pourri, avec des espèces qui se protégeraient toutes seules. Il faut tenir compte de toutes ces espèces dans notre écologie, dans notre vie quotidienne. Car tout cet ensemble-là est un ensemble de réseaux très complexes, ultra complexes, mais un ensemble de réseaux qui se répond. Et dans ce réseau, ce qui fonctionne comme un mécanisme évolutif, c'est pas l'échange de gènes, c'est le tir à la corde évolutif. C'est-à-dire le fait que chacune de ces espèces va fonctionner avec les autres, y compris entre mâles et femelles quand il y en a, hein, parce qu'il y a des espèces chez qui c'est encore plus complexe, comme chez les escargots ou les vers de terre, par exemple.
Thierry Laudet, cette affaire justement d'étude là, du plaisir, de l'orgasme, ça a commencé d'abord sur les humains quand même, avant de passer aux animaux, non?
Toute la biologie a commencé à partir des humains, vous savez. Comment est-ce qu'on appelle un bras de chauve-souris? On appelle ça un numérus, vous voyez, ouais. Parce que c'est le même nom que ce que... C'est à partir du nom des ossements humains, des éléments humains qu'on a commencé à classer toutes ces choses-là.
Non mais sauf qu'on a mis aussi des couples en laboratoire, on les a fait se copuler pour voir comment
Master
ça fonctionnait.
Master Johnson, oui, on fait ça dans les années 60, pour essayer de comprendre ce qui différenciait la réalité des mécanismes de sexualité humaine par rapport à ce que les gens en disaient. Oui, parce qu'il y avait là encore tout un ensemble d'éléments, soit mythologiques, soit tout simplement faux, qui étaient racontés par les gens, parce qu'on n'osait pas tout dire. Et c'est comme ça que Master Johnson ont analysé la chose dans les années 60. Ça a été une grande découverte. Hein.
Ouais. Et on est passé au macaque ensuite, après, c'est ça?
Alors, c'est pas tout à fait les mêmes qui sont passés au macaque, c'est les Burton.
Mais il y a eu, effectivement, sur le passage à l'animal,
voilà,
c'est le macaque
c'est le macaque qui a commencé. Ouais. On a vraiment mis des femelles de macaque sur un petit banc d'amour, et à partir de frictions artificielles, on a mesuré ce que ça leur faisait dans la tête. Ouais. On ne sait pas comment elles ont fait, mais elles ont joui, donc ça suffit pour faire avancer les choses petit à petit.
Et la science.
Ah, c'est la science, oui, c'est
alors,
la science.
Est-ce qu'il y a une espèce ou des espèces qui sont plus fascinantes, ou en tout cas qui ont plus intéressé le spécialiste en écologie évolutive que vous êtes?
Ben évidemment les bonobos qui ont été fascinants. La découverte des bonobos a complètement changé la nature de notre relation à la nature. Depuis que connaît la capacité des bonobos à utiliser le sexe d'un point de vue sexuel, mais aussi d'un point de vue social, on a commencé à comprendre que le plaisir avait un rôle essentiel en évolution. Alors c'est parti très modérément, hein, parce qu'on essaie toujours de faire entrer ça dans les cases anciennes des théories les plus orthodoxes, mais il faut bien avouer que ça a tellement perturbé les découvertes de la sexualité dans le monde et de leur rôle, que petit à petit on avance sur autre chose. Actuellement, c'est sur ce sujet de la sexualité qu'il y a le plus de controverses, mais également le plus de personnes qui essaient de se pencher pour se contredire ou pas se contredire. Ça se passe surtout aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. En France, on aborde assez rarement le problème, sauf pour dire, oh là là, qu'est-ce que c'est diversifié, regardez, la punaise des lits, elle fracasse n'importe quoi, etc., le macaque qui tape, ou le canari viole, ouais. Mais sauf pour dire des choses qu'on sait maintenant depuis quand même plus de 20 ans, et ne pas réellement chercher l'explication, c'est plutôt un catalogue qui est dressé actuellement sur la sexualité en France, malheureusement. Ouais. J'espère que je corrige une grande partie de ce phénomène.
Mais le cas du bonobo, il est intéressant, parce que effectivement, vous dites qu'il y a un rôle social très important dans l'apaisement des conflits, par exemple. Hein, on sait que deux clans de bonobos qui sont en conflit peuvent justement faire la paix grâce à la sexualité. Hein. Ça, c'était clairement observé par les éthologues.
Hein. Comme on a observé que le fait qu'une rate caresse ses petits, comme disent les scientifiques, ça réduit leur anxiété. Ouais. Si vous préférez, ça leur donne du plaisir. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'il y a plein d'éléments qui participent simplement du plaisir. Prenez par exemple Balcombe, qui était un chercheur intéressant, qui a remarqué très tôt que si les humains mettaient du thym dans leurs aliments, c'est pas à cause de l'action bienfaisante du thym sur la digestion. Non, c'est simplement parce que ça lui donne un autre goût. C'est tout. Et ce phénomène-là est bien suffisant pour exister et se répéter, y compris chez toutes les espèces animales qui vont évidemment multiplier les plaisirs, les jeux, les caresses. Et parfois des bagarres, hein. Tout ça se passe pas sans conflit. C'est pas un monde de bisounours ce que je décris. Il y a bien une nature derrière tout ça qui fonctionne, mais l'élément plaisir est un élément essentiel pour peu qu'on le laisse s'exprimer normalement.
Donc le bonobo, c'est plusieurs orgasmes par jour, hein.
Alors là aussi c'est compliqué. Il y a beaucoup d'activités sexuelles, dont des activités orgasmiques, qui peuvent effectivement être très nombreuses, 150, 200.
Ah oui, quand même.
À chaque rencontre. Mais ça ne va pas toujours jusqu'à une excitation comme ça. Ouais. Chez le bonobo, et chez beaucoup d'autres espèces animales, la relation peut être plaisante, sans pour cela aboutir à un orgasme. C'est pour ça qu'en travaillant sur la question de l'orgasme, évidemment, on réduit de beaucoup la réalité des mécanismes de recherche de plaisir. Mais on est obligé d'en passer par là pour comprendre en effet qu'après d'autres mécanismes s'y apparentent, même si ça conduit pas forcément à des mécanismes de plaisir outrancier.
Thierry Laudet, l'invité de la Terre au Carré.
Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha, quand je dansais le cha-cha-cha, quand je dansais le cha-cha-cha. La température a grimpé quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée pour cacher ma timidité. C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai, juste une façon de faire diversion avant que ça dégénère. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi quand je dansais le cha-cha-cha, quand je dansais le cha-cha-cha, quand je dansais le cha-cha-cha. Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue. Ça n'est qu'une simple démonstration, je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention au lieu que tu t'énerves pas. Je vais faire des dégâts. Amène-moi. Je vais rentrer chez toi. T'es dans tous tes états.
bada boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. T'es comme moi, tcha tcha tcha. Hop de poids, tcha tcha tcha.
Et c'était Bonnie Banane.
France Inter. La Terre au carré.
Les tritons s'accouplent d'une manière originale et prudente, puisque cela s'effectue sans contact sexuel. Mais en odorama. Le mâle relâche des odeurs par ses glandes anales et les oriente vers la femelle avec sa queue. Puis, le mâle éjecte une petite boule blanche qui contient son sperme, le spermatophore. À nouveau, il agite sa queue. Le mouvement ressemble aux ondulations des vers qu'aiment à manger les tritons. Un appât factice qui incite la femelle à s'approcher de sa semence. La femelle s'empare immédiatement de la boule blanche en se posant à sa hauteur et l'aspire dans son ventre. Les ovules sont fécondés.
Voilà, extrait du zapping sauvage de France 5, Thierry Laudet. Le sexe sans contact du triton, par exemple.
Alors là, effectivement, on a quelque chose de très archaïque à la base, qui fonctionne justement comme un élément qui va petit à petit permettre de comprendre d'où vient le mécanisme du plaisir. Là, il n'y a donc pas de pénis, il n'y a pas de pénétration, et pourtant, évidemment, c'est bien de la sexualité. C'est de la sexualité avec de la reproduction, et ça, ça va dépendre à la fois du choix délibéré du mâle pour une telle femelle, ouais, ou du choix délibéré de la femelle. On n'est pas du tout dans un élément aveugle. Bon, bien sûr, il y a des éléments qui vont déterminer, hein, c'est délibéré, c'est pas forcément conscient. Pas plus que quand vous êtes tombée amoureuse d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est forcément conscient, mais qui se force à travers le mécanisme évolutif. Là, on a donc un parti pris qui commence l'évolution. Il faut que le sperme du mâle finisse par accéder aux ovules. Il y a des tas de choses bien avant ça encore, hein, il y a des espèces qui vont lâcher tout ça en mer et puis les spermatozoïdes et les ovules se débrouillent tout seuls. Ouais. Mais petit à petit, évidemment, au cours de l'évolution, on va avoir cette stratégie d'aller au contact avec les grenouilles et l'amplexus, par exemple, ou encore de pénétrer les femelles. Et au fur et à mesure que ça se passe, évidemment, ça va changer la donne dans la relation entre les mâles et les femelles. Mais par exemple, dans le cadre du viol des canards, donc, que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, il faut bien reconnaître qu'il y a quand même des canards femelles, des canes qui ne se font pas violer, qui acceptent non seulement la copulation avec leur beau mâle particulier, parce qu'elles ont aussi un vagin en forme de labyrinthe qui leur permet d'égarer le long pénis du mâle s'ils tentaient de les forcer. Ça marche pas à tous les coups, on est bien dans un tir à la corde, mais il y a toujours cette tentative du sexe de rattraper en quelque sorte l'évolution en favorisant la reproduction parfois, et d'autres fois évidemment en favorisant plutôt le plaisir.
Il y a des réclamations, Camille. Hein.
On a un message de David, oui, sur l'application France Inter qui nous écrit « Salut la Terre au carré, vous pouvez s'il vous plaît nous repasser la jouissance de la tortue. J'étais en train de passer une grosse journée bien pourrie, mais là je rigole tellement, merci, ça fait plaisir. »
Ah ben, on va vous offrir, si vous voulez, une Allez, minute Thierry d'orgasme de la tortue. Allons-y.
David. David est content.
C'est un petit peu répétitif, mais voilà, quand même, ça fait plaisir de sentir cette tortue tout à fait
Surtout
heureuse.
Surtout quand on sait que ça participe de toute l'écologie du monde, de toute la formation du monde vivant, de toute cette évolution écologique du monde, et que c'est indispensable, évidemment, à la survie de la planète.
Thierry Laudet, l'évolution dont vous parlez depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle existera encore chez l'être humain, pour le coup?
Bien entendu. L'évolution, c'est d'abord le fait d'apporter de la reproduction.
Sexuelle,
c'est-à-dire, évidemment, de faire de la sexualité pour l'être humain. C'est-à-dire que sans cette possibilité-là, il n'y a pas de variation possible. Il faut que la variation existe aussi bien dans le nombre de partenaires, que dans le nombre de gènes, que dans le type de copulation, que dans les individus qui se mélangent les uns aux autres grâce à cette sexualité. C'est ça qui fait l'évolution. L'évolution va fonctionner comme, je vous l'ai dit plusieurs fois, comme un tir à la corde écologique, dans la mesure où à chaque fois, il faut s'insérer dans le monde du vivant. Il faut s'insérer au milieu du reste. Vous savez, on ne mangerait pas de courgettes s'il n'y avait pas des insectes pollinisateurs, et on aurait de très mauvais sols s'il n'y avait pas de vers de terre. On a besoin besoin de ces espèces-là. Pas question d'en inventer un jardin vivant sur Mars qui serait quelque chose de très provisoire et qui ne tiendrait pas de phénomène évolutif. Pour apporter la différence, il faut copuler, ou du moins il faut qu'il y ait de la sexualité. Et c'est cette sexualité qui fait la différence.
C'est le message du jour. Copulons, l'orgasme, c'est de l'écologie. Donc ça a tout à fait sa place dans la Terre au carré.
Enfin, un truc qui fait pas déprimer, ouais.
Merci beaucoup Thierry Laudet, ça s'appelle l'histoire naturelle du plaisir amoureux, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, bon retour.